Ce message vous est proposé gratuitement.
Gratuitement.
Et en intégralité par le ministère Enseigne-moi. Sa diffusion est rendue possible grâce aux généreux dons des internautes comme vous. Nous vous souhaitons une agréable écoute sur enseignemoi.com, le site partenaire des églises locales.
On va revenir à la parole de Dieu. Et comme ça devient maintenant une petite habitude, mais c'en est une bonne, Matthieu 6, 33, ça dit quoi ? Matthieu 6, 33, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes choses vous seront données par-dessus. » Et je vous rappelle aussi Matthieu 6, 10, où Jésus enseigne à prier et dit « Que ton règne vienne et que ta volonté se fasse sur la terre comme au ciel. » Et je vous rappelle que depuis maintenant plusieurs semaines, on est en train d'observer certaines paroles de l'Écriture au sujet du royaume de Dieu, et en fait au sujet du vrai message de Christ. Et on s'est rendu compte, enfin en tout cas moi, j'espère que j'ai su vous le communiquer, que le vrai message de Christ, ce n'est pas la religion, que le vrai message de Christ, ce n'est pas un ensemble de rituels et de pratiques qui n'ont pas beaucoup de sens dans la pensée des gens, mais le vrai message de Jésus, c'est le royaume de Dieu. Et on a vu ensemble qu'il fallait chercher le royaume, faire du royaume de Dieu une priorité. Nous avions vu ensemble aussi que la vraie pensée de Dieu pour l'Église, c'était qu'il s'agissait d'un gouvernement, c'est-à-dire d'un groupe de personnes que Dieu avait mis à part pour statuer, pour prendre des décisions, pour exercer une influence. Et nous avions vu en même temps que les gens qui viennent normalement à Christ et qui s'engagent avec Dieu, bien, ne devraient pas seulement être des gens qui accomplissent un devoir religieux, mais en fait nous devrions être des gens qui sommes équipés et capables d'avoir de l'influence dans notre vie, capables de réaliser des choses et capables en fait de jouir de ce qu'on appelle la vie de Dieu ou bien la vie Zoé, c'est-à-dire une vie au bénéfice de tout ce que Dieu a préparé pour l'homme. Et je peux vous assurer qu'il y a un kit important de bonnes choses que Dieu a préparées en réalité pour l'homme. Parce que lorsque Dieu a créé l'homme, il l'a créé pour régner, et il utilise des termes bibliques, sur la terre, régner dans la vie. L'homme n'a pas été créé pour subir les circonstances, l'homme n'a pas été créé pour subir tout ce qui lui arrive, l'homme a été créé par Dieu pour régner, pour gouverner, pour exercer de l'influence, et Christ est venu dans ce monde pour rendre à l'homme l'autorité qu'il avait perdue. Comment l'homme a perdu son autorité ? Eh bien, par le péché en Éden, il a transféré son autorité sur le diable. Mais Christ est venu dans le monde pour permettre à ceux qui croiraient en lui de retrouver leur position initiale, qui est une position d'autorité, de règne, d'influence. Dans ce monde, et surtout à commencer par notre vie personnelle. Ensuite, je vous rappelle qu'on avait vu combien il était important de savoir migrer ou de marcher selon la révélation ou la compréhension que nous avons des choses. C'est-à-dire de ne pas rester attaché uniquement à des choses anciennes ou à des choses du passé, mais savoir évoluer, avancer, faire des pas, pas après pas, pour en fait nous porter vers des choses meilleures, des choses excellentes. Et d'ailleurs, tout homme a au fond de lui cette aspiration de devenir meilleur, ou en tout cas de vivre mieux, et Dieu n'est pas contre ça, au contraire. Et enfin, la semaine dernière, on avait plus parlé, on avait commencé à observer ce qu'on appelle la parabole du semeur, dont on a tiré plusieurs enseignements, que Dieu lui-même était un semeur, que Christ avait semé sa parole, avait semé son message, et qu'il y avait différents styles de terrain, c'est-à-dire que nous devions aussi veiller sur la disposition de notre cœur. Est-ce que nous sommes des cœurs réceptifs ? Est-ce que nous sommes préparés au changement ? Est-ce que nous sommes préparés à recevoir des principes qui vont nous transformer ? Ou bien est-ce que nous ne le sommes pas, tout simplement ? Et ce matin, j'aimerais encore, à partir de l'enseignement de Jésus, vous montrer plusieurs choses, et j'aurais intitulé cette intervention « Principe de développement » ou « Principe de croissance ». Et je peux vous assurer que j'ai été vraiment, vraiment frappé quand j'ai pris le temps de me rapprocher de ces paraboles de Jésus dans une perspective différente, dans une perspective qui dépasse le simple enseignement entre guillemets religieux que nous avons pu avoir peut-être selon notre arrière-plan sur ces choses. Et j'ai été vraiment encouragé, et ça m'a fait du bien de voir que dans ces paraboles, eh bien, Dieu donnait des principes de développement ou des principes de croissance. Et vous allez voir que dans un premier temps, ce sont des principes bien sûr, que nous pouvons appliquer à la vie chrétienne et à la vie spirituelle, mais ce sont aussi des principes que nous pouvons transposer à notre vie quotidienne, notre vie courante, et qui vont nous amener dans une démarche de changement, de transformation, de réalisation. Parce que le désir de Dieu, c'est que nous puissions nous réaliser, nous accomplir, nous développer et amener quelque chose dans ce monde qui fasse la différence. Donc j'aimerais qu'on reprenne simplement là où on s'est arrêté dans Matthieu 13. Matthieu 13, et on va prendre le verset 24. Matthieu 13, 24. Donc Jésus vient d'expliquer la parabole du semeur qu'on a vu la dernière fois. Et là, il continue, Matthieu 13, verset 24. Il leur proposa une autre parabole et il dit: le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire: « Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y ait de l'ivraie ?» Il leur répondit: « C'est un ennemi qui a fait cela. » Et les serviteurs lui dirent: « Veux-tu que nous allions l'arracher ?»« Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur: arrachez d'abord l'ivraie, liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. » Et un petit peu plus loin, au verset 37, en fait, Jésus va expliquer à ses disciples ce qu'il a voulu enseigner. Donc, je fais un petit saut d'ici jusqu'au verset 37. Donc, ses disciples s'approchèrent de lui et lui dirent: « Explique-nous la parabole de l'ivraie et du champ. » Il répondit: « Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. Et la moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Or, comme on arrache l'ivraie qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Et ils jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors, les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. » Donc, plusieurs choses que Jésus enseigne ici. Et de prime abord, on peut trouver cette parabole un petit peu étrange. On peut se demander, mais pourquoi est-ce que Christ, ou bien pourquoi est-ce que Dieu veut laisser pousser ensemble une chose qui est bonne, à l'image du blé, et des choses qui ne sont pas bonnes? Et surtout qu'après, Jésus explique que eh bien, le blé ou bien la bonne semence, ce sont les fils du royaume, c'est-à-dire les hommes et les femmes qui se sont approchés de Christ, qui ont décidé de marcher avec Dieu et qui sont nés de nouveau. Et il dit que l'ivraie, donc la mauvaise herbe en fait, ce sont les autres personnes, c'est-à-dire ceux qui s'opposent à Christ. Et il montre qu'il y en a même dans l'Église. Donc plusieurs remarques. D'une part, ce n'est pas parce que quelqu'un est dans une Église qu'il est forcément un enfant de Dieu, au sens où il marche forcément avec Dieu, ou bien au sens où il est agréable à Dieu. Puisque là, Jésus explique que le champ, c'est le monde, puisqu'il dit qu'au milieu du monde, bon, il y aurait effectivement les enfants de Dieu et ceux qui ne le sont pas, mais il dit, au temps de la moisson, il séparera de nouveau l'ivraie, donc la, en fait la mauvaise herbe, du bon grain, du blé. Est-ce que veut dire que même dans une église, dans un groupe de personnes, il peut y avoir des personnes qui sont bien intentionnées, qui ont de bonnes motivations, qui cherchent à bien faire, et à côté des personnes qui ne sont pas du tout dans ce même état d'esprit? Et bien souvent, comme il est dit ici, les deux se ressemblent. Et quand vous jetez un coup d'œil sur un groupe de personnes, ou bien sur une église, ou bien, parfois ça ne frappe pas aux yeux la différence entre les vraies motivations du cœur de quelqu'un. Et à un moment donné, les serviteurs de ce maître lui ont dit « Mais laisse-nous aller arracher la mauvaise herbe. » Et le maître va leur dire « Non, de peur que vous n'abîmiez aussi ce qui est bon. » Et de la même manière, des fois, nous, en tant qu'hommes, quand on est dans un groupe de personnes, on voudrait bien pouvoir se séparer ou bien exclure les gens dont on a l'impression qu'ils ne correspondent pas à nos standards ou à notre façon de faire les choses ou à notre compréhension. Et pour rester pour l'instant dans le contexte d'église, en tant qu'église, parfois, on a bien envie d'exclure les gens qui nous comprennent pas ou qui parlent pas comme nous ou bien qui, dont on a l'impression qu'ils ne cherchent pas vraiment la volonté de Dieu. Mais Jésus dit non, ne le faites pas. Parce que si vous le faites, vous risquez aussi d'abîmer ce qui est bon. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Bien sûr, il n'est pas question non plus de tolérer tout et n'importe quoi dans une église ou dans un groupe de personnes, mais ce n'est pas à nous qu'il appartient de juger les personnes. C'est-à-dire qu'on ne peut pas juger simplement sur notre impression ou notre façon de voir les choses. Parce qu'il y a un moment qui viendra, dans cette parabole, là il est question de la moisson, vient un moment où on verra la différence entre le bon et le mauvais grain. C'est-à-dire qu'au départ, quand c'est le début des pousses, on ne distingue pas bien qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon. Mais quand ça a poussé, on commence à voir, cette plante-là, elle n'est pas bonne. Cette autre plante, c'est vraiment ce que j'ai semé, ce que je voudrais récolter. Donc, un moment viendra, de toute façon, où les motivations du cœur seront révélées. Et c'est à ce moment-là que Christ, ici, donne l'image que le moissonneur va avoir l'autorisation d'arracher ce qui n'est pas bon. Mais uniquement lorsque ce sera révélé. Donc on ne peut pas se permettre de juger les gens avant que leur cœur ou que leur motivation ou que leur manière de fonctionner ne soit révélée. Il est important de ne pas, mais de savoir recevoir le cœur de Dieu et comprendre. Vous savez, la Bible nous montre par ailleurs que Dieu use de patience pour que plusieurs puissent encore venir à sa connaissance et marcher avec lui. Et également, Jésus dira dans Matthieu 7, 21, vous pourrez regarder, il dira, mais ce ne sont pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume des cieux. Donc de la même manière que parfois en voyant quelqu'un, on peut se dire, mais lui, il ne marche pas avec Dieu et vouloir l'exclure. De la même manière, il y a certaines personnes dont on se dit, ah mais ça c'est un super chrétien parce qu'il prie le plus fort ou bien il dit Seigneur trois fois dans chaque phrase. Mais ce ne sont pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume des cieux. Autrement dit, ce que Dieu juge, et d'ailleurs c'est écrit clairement dans la parole aussi, ce ne sont pas les apparences, mais c'est le cœur. Dieu ne juge pas ce qui frappe les yeux, mais Dieu regarde au cœur. Et même dans la parole, au fil des actes et au fil de plusieurs histoires de la Bible, on a des gens qui étaient au milieu du peuple. Même Judas, il faisait partie des disciples de Jésus, pourtant il a vendu Jésus pour quelques pièces, pourtant il était à côté de Jésus. Plus tard, on a des gens comme Ananias et Saphira, si vous vous souvenez, dans les actes, qui vont essayer d'escroquer l'Église en disant « Voilà tout ce que nous a rapporté cette vente et on veut tout vous donner. » C'était pour faire bonne figure, mais en réalité, ils avaient gardé une bonne partie pour eux. Et comme ça, tout au long de l'histoire, on a des gens qui n'ont pas su prouver ou qui n'ont pas, entre guillemets, passé le test de montrer qu'ils ont de bonnes motivations et ils ont un cœur disposé. Donc, même si, à un moment donné, la bonne terre et la mauvaise terre, ou bien la bonne semence et la mauvaise semence peuvent se ressembler, il y a un moment où on verra la différence. Et à un moment, la Bible déclare aussi qu'on verra de nouveau la différence entre le juste et le méchant, et entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Ça, c'est Malachie 3,18. Donc, ce que je voudrais souligner ici, souligner plusieurs principes pour notre vie, pour notre façon de fonctionner. Le premier, c'est de ne pas porter de jugement hâtif ou de jugement sur une apparence extérieure. Apprendre à ne pas juger hâtivement, à ne pas nous laisser influencer par ce que nous voyons. Donc, pas de jugement hâtif ou extérieur. Deuxième chose, c'est que le temps révélera les motivations. Donc, pourquoi on peut se permettre de ne pas juger hâtivement? Parce que le temps révélera forcément les motivations de quelqu'un. Et ça, c'est vrai dans tout type de relation. Là, on peut parler d'église, mais on peut parler dans notre vie personnelle, parce que je vais être très pratique. Il y a des gens qui peuvent venir, vous avez l'impression qu'ils veulent vous aider, ils veulent bien faire avec vous, mais seul le temps pourra dire si effectivement le discours de cette personne ou ce que cette personne vous laisse voir est authentique, ou bien tôt ou tard, la personne va, entre guillemets, se trahir. Soit vous allez vous rendre compte qu'en fait, il y avait d'autres intérêts ou la personne cherchait autre chose. Donc le temps révélera forcément les motivations, plus ou moins vite. Et si on peut prendre cet enseignement de Jésus, au plus tard, ce sera au moment de la moisson, ou ce qu'on peut appeler aussi la fin des temps. C'est-à-dire qu'au plus tard, de toute façon, à la fin, on verra qui est qui, en fait. Un autre principe ou une autre vérité, c'est que être dans un environnement n'est pas suffisant. Être dans un environnement n'est pas suffisant. Être dans un environnement n'est pas suffisant. Il faut être un bon grain, entre guillemets. Parce que là, l'image qui nous est donnée, c'est que dans le même champ, vous aviez des semences différentes. Donc ce n'est pas l'environnement seulement qui fait la différence, mais c'est en fait la nature, le grain, la motivation, la semence que nous portons ou que nous sommes. Donc être dans un environnement ne suffit pas, il faut être un bon grain. Et enfin, j'ai également remarqué qu'à travers là, nous pouvons entendre que Dieu nous montre qu'il ne faut pas se comparer, comme en nous excusant de dire qu'il y a toujours pire. Ne pas se comparer, il y a toujours pire, mais viser un standard élevé. Ne pas se comparer, mais viser un standard élevé. Pourquoi je dis ça? Parce que ici, il est question d'un champ dans lequel il y a des bonnes et des mauvaises semences. Maintenant, ce n'est pas parce qu'il y a des mauvaises semences qu'on peut se dire « De toute façon, lui, il est moins bon que moi, donc de toute façon, on va évoluer ensemble et on se contente de ça. » Notre motivation, notre désir, notre recherche devrait tendre vers le développement et vers dire « Je veux devenir toujours meilleur, je veux être du bon grain, je veux être le meilleur grain possible. » Si on peut utiliser l'image du grain. Et pas uniquement de se dire que bah, de toute façon, il y a des mauvais grains et puis regarde, celui-là, il est pire que moi. Si on veut parler de choses chrétiennes, il faut dire mais lui, il lit pas assez sa Bible, ou bien lui, il prie pas combien de fois par jour, ou bien il vient à l'église une fois sur deux. Bah oui, on va toujours trouver pire que soi. Mais à un moment donné, est-ce que nous sommes prêts à élever le standard de notre propre vie en se disant mais peu importe qu'il y ait moins bien, mon désir, ma motivation et ma détermination, c'est de tendre vers le meilleur. De tendre vers le meilleur. Et d'ailleurs, ça ouvre même une perspective selon laquelle si vous tendez vers le meilleur, peut-être que vous allez aussi influencer les gens qui sont encore un peu médiocres à chercher aussi ce meilleur parce qu'ils verront dans votre vie le fruit que ça va porter. Voilà, donc ça c'est quelques principes que j'ai voulu tirer de ce premier enseignement de Jésus au sujet de l'ivraie. Et juste après, Jésus continue toujours au sujet de choses à semer et qui poussent, au verset 31 de Matthieu 13, Matthieu 13, 31. Jésus proposa encore une autre parabole et dit « Le royaume des cieux est semblable à un grain de sénuvé qu'un homme a pris et a semé dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences. Mais quand il a poussé, il est plus grand que les légumes et devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. » Donc vous voyez que Jésus enchaîne ses enseignements. C'est nous qui les séparons en disant « Il y a la parabole du semeur, il y a la parabole de l'ivraie, il y a la parabole du sénévé, après il y a la parabole du levain. » Mais en réalité, pour Jésus, c'est un ensemble. C'est un ensemble d'enseignements. Donc, pour ça que je me permets aussi d'enchaîner. Et ici, on voit que Jésus attire l'attention sur la semence. Il dit « Mais, voyez, le sénévé, c'est la plus petite de toutes les semences. C'est méprisable, c'est pas grand-chose, c'est vraiment le plus petit. Mais quand elle a poussé, c'est maintenant ce qu'il y a de plus grand. C'est plus grand qu'une plante ou qu'un légume et ça devient un arbre. Et même les oiseaux viennent se poser dans ses branches. » Alors, qu'est-ce qu'on peut comprendre ici? Déjà, une chose très simple, c'est que la semence de cette plante ou de cet arbre est toute petite, insignifiante. Et rappelez-vous, je vous ai déjà donné cette image que souvent, quand vous allez semer quelque chose, si vous considérez la graine en elle-même, c'est vraiment quelque chose de tout petit. Ça n'a rien d'attirant, c'est pas particulièrement joli. Et quand vous regardez la graine, vous n'avez pas encore sous les yeux ce qu'elle va produire. Mais là, il est important de tourner nos regards et d'accorder plus d'importance au résultat qu'au point où nous en sommes au départ. Accorder plus d'importance au résultat qu'au point où nous en sommes au départ. Et vous savez, même Jésus, lorsqu'il était sur terre, il n'avait que quelques hommes autour de lui. La Bible nous montre qu'il avait pris 12 personnes, 12 disciples, qu'il enseignait, avec qui il fonctionnait. Et en fait, le royaume de Dieu, si on peut dire à cette époque, n'était pas très impressionnant. Et d'ailleurs, les religieux de son époque vont lui reprocher parce qu'ils vont dire « Mais attends, nous on attendait un roi, on attendait quelqu'un qui allait venir et nous libérer, soit en faisant la guerre, parce que c'était la coutume à l'époque, soit en faisant des choses comme ça. Et puis, toi tu viens là et qu'est-ce que Jésus a comme stratégie ? Ce n'est pas une stratégie comme celle du monde. » Et laissez-moi vous dire que les stratégies du royaume de Dieu ou de la Bible, qu'on peut appliquer aussi à nos vies personnelles, ce ne sont pas des stratégies qu'on peut comparer aux stratégies de ce monde. Ce n'est pas des stratégies qu'on va trouver n'importe où ailleurs. Mais par contre, vous vous rendrez compte, à mesure que vous lisez la Bible, que vous lisez cette parole en cherchant des clés pour votre vie personnelle aussi, que certains principes que nous entendons ailleurs ou dans ce que nous pouvons appeler le monde, ou que nous entendons dans certains milieux, eh bien en fait, ils sont tirés de l'enseignement du Christ il y a plus de 2000 ans maintenant. Et aujourd'hui, on a l'impression que ce sont des découvertes. Quand des gens vous disent, ben voilà, certains principes pour réussir ou pour fonctionner, ça apparaît comme une découverte, comme quelque chose de moderne qui vient d'apparaître et les gens se sont lancés dans ça. Mais il y a 2000 ans, Christ avait déjà enseigné ces principes. Le tout, c'était de pouvoir les extraire de son enseignement et ne pas en faire un truc religieux. Et je prendrais même le risque de dire que Jésus n'était pas religieux. Et Jésus n'a pas seulement apporté une philosophie ou quelque chose de théologique, Jésus a apporté des principes qui avaient le potentiel et qui ont le potentiel de transformer la vie d'un homme s'il les applique dans sa vie. Et pas seulement dans des histoires spirituelles. Donc, Jésus avait juste quelques hommes, mais on voit quelle influence Jésus avait à son époque, et plus tard, comment avec ces quelques hommes qui vont être envoyés vers les autres gens de ce monde, qui vont commencer à voyager pour partager ce qu'ils ont appris de Jésus, comment l'influence de ce qu'on appelle le christianisme aujourd'hui s'est répandue. C'est quand même impressionnant qu'avec d'abord une seule personne, Jésus, qui parle de choses que les gens ne connaissaient pas, et ensuite les quelques 12 qui étaient avec lui, qui vont répéter cet enseignement, comment ça s'est multiplié et comment ça a rempli toute la surface de la terre. Bien, de la même façon, une chose qui paraît insignifiante au départ, mais elle va aussi amener des choses beaucoup, beaucoup supérieures à ce que nous voyons au commencement. Et juste après, Jésus continue encore avec une autre image qui vient exactement compléter au verset 33 où il est dit « Il leur dit encore cette autre parabole, le royaume des cieux est semblable à du levain qu'une femme a pris et a mis dans 3 mesures de farine jusqu'à ce que toute la pâte soit levée. » Donc là, on a encore une image, c'est le levain. Le levain, en fait, on peut dire tout simplement la levure. C'est-à-dire, c'est ce qui devait faire monter la pâte. Et là, Jésus utilise cette image. Et en fait, le levain, c'est une matière, c'est quelque chose qui a une capacité de produire une transformation. Quand vous mettez de la levure dans la pâte ou dans la farine et que vous faites votre mixage, là, je ne suis pas un pro de la cuisine, mais quand vous mettez du levain ou de la levure, à un moment donné, vous voyez que la pâte va réagir, elle va commencer à bouger, ça va gonfler normalement, c'est ça, hein? Ça va gonfler, et en fait, il y a même un changement de la nature de la pâte, parce qu'au départ, vous aviez juste mis de la farine, peut-être de l'eau, ou peut-être de l'œuf, ou je ne sais pas quoi d'autre, c'était purement comme ça, la farine toute seule ne va jamais lever. Vous pouvez mettre de la farine dans un pot et la laisser poser là pendant des jours, des mois et des années, je peux vous assurer qu'elle ne va pas bouger, elle ne va jamais lever. Mais quand vous lui mettez cette levure, maintenant la farine va changer de nature et tous les ingrédients que vous avez mis là vont se conjuguer et puis la pâte va monter. Donc cette image du levain nous montre qu'il y a une puissance de transformation, un changement de nature qui s'opère et aussi une multiplication puisque ça augmente en volume. Et là on voit qu'il y a une action qui est une action relativement discrète. La levure, ça ne fait pas du bruit, ça ne fait pas une explosion, mais ça monte tout doucement, ça fait son travail, et au bout d'un moment, ça accomplit son travail de faire monter la pâte. Donc il y a une action discrète, une action en profondeur, et une action progressive, qui vient de l'intérieur. C'est à l'intérieur que ça va commencer à travailler, et puis la pâte va grossir. Et nous pouvons comprendre aussi que lorsque nous venons à Christ, que nous acceptant son enseignement, eh bien cet enseignement va agir en nous comme une puissance qui va progressivement nous faire changer notre manière de fonctionner, notre manière de raisonner, et qui va en fait amener un changement de nature et va nous faire aussi, va nous apporter une expansion. On va se développer, on va grandir, et de la même manière, nous aussi, nous sommes amenés à être et à agir comme ce levain dans notre environnement. C'est-à-dire qu'à un moment donné, nous sommes peut-être insignifiants au départ, comme une petite graine ou comme une pâte dans laquelle on vient de mettre le levain. Mais quand ça commence à travailler, quand le levain fait son œuvre, ou bien quand la plante commence à pousser, on se rend compte que les branches s'étendent, on gagne en influence, on gagne en possibilité d'action. Et c'est là aussi les enseignements de Jésus là-dessus. C'est pas juste quelque chose de comme ça pour la prière ou pour la vie chrétienne, c'est vrai aussi pour notre vie personnelle. À mesure que nous nous laissons changer par les principes et les raisonnements que Christ communique à travers son message, en sortant du seul sentier battu qui est ce qu'on appelle la vie chrétienne ou la vie religieuse, en disant bah, Jésus a dit de s'aimer les uns les autres, Jésus a dit de venir à l'église, Jésus a dit de faire ceci, cela, mais à travers ce que Jésus a dit, de tirer des principes qui vont m'être utiles dans ma vie quotidienne, ma vie de tous les jours, pour exercer aussi une influence, dans un sens positif du terme, dans ma vie, dans mon environnement. On voit que le levain, on en met un tout petit peu dans la pâte, mais il fait lever toute la pâte. C'est-à-dire, il suffit d'un petit peu de cette semence de vie que Christ a mis en nous pour qu'en fait toute notre vie puisse être changée. Et ensuite, il peut suffire d'un petit peu de la semence de qui vous êtes et de ce que vous annoncez comme message, de ce que vous affichez comme comportement pour pouvoir faire changer aussi tout un environnement autour de vous. Parce que toute la pâte va être levée. Donc ça nous montre bien que même si la semence n'est pas grande, même si le levain à la base c'est aussi juste une poudre, mais une fois qu'il est mêlé à la pâte, ça va faire lever toute la pâte. C'est-à-dire que toute notre vie va commencer à être marquée par ce que nous avons reçu de l'enseignement de Jésus-Christ. Et toute notre vie doit commencer à être marquée aussi par ce que nous sommes, par ce que nous faisons, par notre manière d'agir. Et d'ailleurs, une des grandes choses à comprendre et réaliser, c'est que nos paroles, nos actions, nos comportements ont forcément des répercussions sur notre vie. Et notre environnement est influencé par ce que nous faisons, par ce que nous disons. Il n'y a pas de fatalité. Hein. Les gens qui vivent une fatalité, c'est les gens qui, en nourrissant une mentalité de fatalisme, en parlant fatalisme, eh bien, ils ont provoqué le fatalisme autour d'eux. Et les gens qui réussissent, les gens qui sortent de la médiocrité, c'est des gens qui ont commencé à raisonner différemment, qui ont commencé à réfléchir en termes de succès, de réussite, qui ont commencé peut-être à se fixer des objectifs, qui ont commencé à dire que non, je peux réussir, même si le contexte est difficile, et c'est comme ça des gens qui ont provoqué la réussite dans leur environnement. Donc en fait, notre environnement n'est pas quelque chose que nous subissons, notre environnement est quelque chose que nous produisons. Et ça, c'est vrai, encore une fois, dans des choses spirituelles, mais c'est vrai aussi dans notre vie, entre guillemets, naturelle. Et ce sont des principes extrêmement importants à comprendre et à appliquer. Une autre caractéristique encore de cette semence ou bien du levain, c'est qu'on voit comme une montée en puissance. Je vous l'ai dit déjà quelques fois, c'est qu'on a vu, même au fil de l'histoire, des gens qui redécouvraient certaines vérités bibliques, certaines vérités de l'enseignement de Dieu, et qui, petit à petit, le message se reconstitue. Et on redécouvre quelle est la vraie nature du message de Christ, quelle est la vraie raison d'être de l'homme, pourquoi nous sommes sur la terre, à quoi nous servons, est-ce que notre vie a du sens. Et plus le temps passait, plus le message va aussi commencer à monter en puissance. Mais à chaque fois qu'un nouveau message, entre guillemets, n'était pas vraiment nouveau, parce que c'était revenir au message du Christ, apparaissait, eh bien il y a aussi des gens qui le combattaient. Et ça commençait petit. Ça commençait petit. Pour parler de choses très parlantes et très flagrantes comme les débuts de la réforme, lorsqu'un certain Martin Luther a commencé à se lever et à condamner certaines activités de l'église catholique de l'époque, en disant « mais le salut ça ne s'achète pas, ça s'obtient par la foi » et des choses comme ça, il était tout seul, après il a commencé à être juste avec quelques personnes, et finalement il y a eu aussi une montée en puissance de ce message, et est né ce qu'on appelle l'église protestante, ce grand mouvement de l'église protestante qui croit davantage au salut par la foi qu'au salut par les œuvres. Plus tard, quand on a eu des mouvements comme des mouvements sur par exemple la guérison divine, ou bien sur le pentecôtisme, ou bien sur d'autres réveils, on se rend compte qu'au début c'est juste quelques personnes. D'ailleurs, bien souvent on cite des noms en disant bah tiens, un tel, il a été à l'origine de tel réveil. Mais ensuite ça s'est répandu pour couvrir quasiment la surface de la terre. Et moi je crois et j'aime à penser qu'aujourd'hui ce message même du royaume, où, eh bien, peut-être qu'il est encore insignifiant, qu'il est encore tout petit, mais il a ce potentiel et cette puissance qui fait que la pâte est en train tout doucement de lever, et bientôt aussi ce message va couvrir la surface de la terre et va commencer à transformer des vies. Donc même si au début de votre marche personnelle, ou même de notre marche en tant qu'assemblée, en tant que groupe ici, peut-être qu'il y a des choses qui paraissent insignifiantes. On est juste une poignée de personnes, on fait nos petits trucs entre guillemets entre nous, mais il y a un potentiel là-dedans. Et ça n'est que le commencement. Et à certains moments d'ailleurs, la Bible encourage à ne pas mépriser, les petits commencements. Et Jésus dira aussi que si quelqu'un est fidèle dans des petites choses, il lui en confiera aussi des grandes. Donc ne vous laissez pas influencer par votre ressenti. Peut-être que vous vous sentez insignifiant, vous ne vous sentez pas fort, Mais ce n'est pas grave, ça n'est que le début. Mais quand on considère les réalités de ce que c'est qu'une semence, on peut se dire, ok, j'en suis au stade de semence. Eh bien, ça a commencé à pousser un petit peu. Mais dans cette graine-là, il y a le potentiel pour que tu puisses te développer, grandir, croître et finalement porter du fruit aussi. Donc, quelques principes aussi ici à tirer du grain sénevé et du levain. Eh bien, tenez compte du potentiel. Tenez compte du potentiel plus que des apparences. Je vous rappelle que la définition du mot potentiel, c'est une puissance qui n'est pas encore activée. C'est-à-dire que le potentiel, il a en lui tout ce qui est nécessaire et il devient une puissance à partir du moment où vous l'activez. C'est-à-dire en croyant en ce potentiel et en vous mettant en action pour qu'il se réalise. Donc, le potentiel, qu'est-ce que j'ai dit ? Tenez compte du potentiel plus que de l'apparence. Et si vous voulez mettre un verset biblique en face, on a également Éphésiens 3, verset 20, où il est dit que Dieu peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de ce que nous espérons ou pensons. Infiniment au-delà. Donc même si ce que nous voyons, ce que nous pensons et même ce que nous espérons, Dieu peut faire infiniment au-delà. Il y a un potentiel largement supérieur à l'apparence. Ensuite, deuxième principe, je l'ai déjà énoncé, mais je vous le redonne, ne pas mépriser les petits commencements. Ne pas mépriser les petits commencements. Et donc Jésus disant, celui qui est fidèle dans les petites choses, on lui confiera des grandes. Vous pouvez noter la référence, Luc 19, verset 17. Luc 19, 17. Et une troisième vérité à noter et à mémoriser, c'est que la semence, même si elle est peu spectaculaire, produira la puissance. Produira la puissance. La semence, même si elle est peu spectaculaire, produira la puissance pour accomplir le dessein pour lequel elle existe. La semence, même si elle est peu spectaculaire, produira la puissance pour accomplir le dessein pour lequel elle existe. Voilà, on trouve des principes à appliquer pour notre vie. Et j'aimerais maintenant développer un principe extrêmement important qui transparaît à travers cet enseignement et que vous allez voir avec moi se trouve dans d'autres endroits aussi dans la parole, la loi de la semence, et bien le principe de cause à effet, qui est en fait un principe de croissance et de développement. Donc la loi de la semence ou le principe de cause à effet. Vous avez peut-être déjà entendu ce mot, même dans d'autres contextes, le principe de cause à effet, c'est-à-dire que certaines choses qui se passent vont produire un effet, ou bien si nous voulons certains résultats, il va falloir aussi mettre en œuvre certaines choses. Mais c'est totalement biblique. Ce n'est pas juste une histoire philosophique ou quoi, c'est biblique, c'est l'enseignement de Christ et ça peut changer nos vies. La Bible déclare dans Galates 6, verset 7, « Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. » Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Et si on se rendait vraiment compte de cette vérité, de cette puissance, il faut vous dire qu'on ferait attention à ce qu'on sème. Alors, comprenez-moi, je ne parle pas seulement de semences, d'aller semer des plantes ou des fleurs. Je parle de notre vie, nos attitudes, nos paroles, nos façons de fonctionner. Qu'est-ce que nous semons dans ce monde ? Qu'est-ce que nous mettons en œuvre et quels résultats nous attendons ? Parce que bien souvent, nous attendons certains résultats, mais ce que nous mettons en œuvre n'est pas du tout conforme aux résultats que nous attendons. Toute action et toute parole sont une semence dans notre vie. Tout ce que vous faites, tout ce que vous dites, ça produit quelque chose dans votre vie. C'est pour ça qu'il est extrêmement important d'être vigilant et de comprendre pour que ce principe puisse être actif et efficace dans notre vie. Alors, quel genre de semence nous pouvons avoir ? Eh bien, tout d'abord, en tant que chrétien, comme nous l'avons vu la dernière fois, la parole de Dieu, qui est une semence. La Bible déclare dans que la parole est une semence incorruptible, 1 Pierre 1, 23. Jésus qui dit également que mes paroles sont esprit et vie, c'est-à-dire que mes paroles ont un pouvoir. Proverbe déclare également que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue, c'est-à-dire nos paroles. Et je vous ramène à la Genèse où Dieu créa le monde par sa parole. Donc Genèse 1 et puis Jean chapitre 1 également qui apporte la confirmation. Donc lorsque Dieu parle, il se passe quelque chose. Lorsque nous parlons, il se passe quelque chose. Et nos paroles vont agir sur notre environnement. Après, un autre genre de semence que nous pouvons avoir ou semer dans ce monde, eh bien ce sont nos comportements. ce qu'on peut appeler notre témoignage aussi, c'est-à-dire la manière dont nous nous comportons, la manière dont nous agissons, eh bien c'est une forme de semence, c'est-à-dire que ça produit quelque chose. C'est-à-dire que les gens qui sont en face de vous, lorsqu'ils vous voient, en général, à votre comportement, à votre manière de vous tenir aussi, ça a une importance, ça reflète quelque chose, ça va produire quelque chose chez la personne qui est en face de vous. Si vous vous tenez bien, que vous parlez posément, poliment, ça va, chez la personne, ça va naturellement attirer une forme aussi de respect ou une forme d'ouverture. Par contre, si vous êtes fermé, que vous donnez l'impression que la personne vous dérange, eh bien, à votre comportement aussi, la personne, d'une certaine manière, va se fermer parce qu'elle va dire « mais le dialogue ne va pas être possible ». Donc, nos comportements aussi sont une semence. Après, on a aussi ce terme, et je sais que souvent ça a été utilisé, et même malheureusement parfois abusé, mais à la base c'est vrai, notamment dans l'Église, que nos semences, ce sont aussi des biens matériels que nous pouvons donner. C'est-à-dire que lorsque nous donnons pour de bonnes œuvres, ou bien lorsque nous aidons quelqu'un qui est dans le besoin, c'est une semence, un bien matériel que nous donnons et qui est censé aider la personne à se sortir et donc à produire un changement de situation. Et également la semence financière, que ce soit dans l'Église, en donnant pour que, d'une part pour honorer Dieu, d'autre part en sachant que cet argent va pouvoir servir à couvrir certains besoins pour faire avancer le message et le royaume de Dieu. Donc, tout ça, ce sont des vérités. Et en sachant, selon ce que dit la Bible, que si vous semez, Dieu est fidèle aussi pour vous faire récolter en abondance. C'est-à-dire que ce que nous donnons, c'est ça qui est important d'avoir à l'état d'esprit, le principe de la semence. C'est-à-dire que lorsque vous donnez, même lorsque vous aidez quelqu'un, lorsque vous faites quelque chose, de ne pas le faire avec un état d'esprit, mais là, maintenant, j'ai donné ou bien j'ai fait quelque chose, comme si j'ai perdu quelque chose. Mais de le faire avec à l'état d'esprit que c'est une semence. Un autre terme pour bien comprendre ça pourrait être l'investissement. Un investissement, c'est quelque chose qui, c'est vrai, à un moment donné, vous vous séparez de quelque chose pour l'investir quelque part ou dans quelque chose, mais le principe même de l'investissement, c'est que tôt ou tard, ça va vous rapporter et ça va même vous rapporter plus que ce que vous avez mis au départ. Sinon, ce n'est pas un investissement. D'accord ? Quand on investit, c'est pour retirer davantage. Donc, de la même manière, tout ce que nous faisons doit être considéré pour nous comme des investissements. Et Dieu lui-même nous a donné le modèle. 2 Corinthiens 9, verset 10, il est dit que c'est Dieu lui-même qui donne de la semence au semeur. Et dans 1 Corinthiens 3, verset 9, il est écrit « Vous êtes le champ de Dieu ». Le champ, C-H-A-M-P. Donc si nous sommes son champ, moi je pense que Dieu ne néglige pas ses propriétés, entre guillemets. Et si nous sommes son champ, c'est-à-dire que Dieu va aussi jeter une semence dans son champ. Et que Dieu lui-même va semer en nous des choses. Vous savez, Dieu a investi en vous. Et que vous le sachiez ou pas, c'est vrai. Il y a un potentiel dans chaque homme. Et même ceux qui ne sont pas encore vraiment venus à Christ pour se développer dans le message réel de la Bible et vivre la vie abondante que Dieu a préparée pour eux. Mais dans tout homme, il y a un potentiel qui est là. Et c'est Dieu qui a investi dans l'homme. Et on a nombreux passages de l'Écriture, on ne pourra pas tous les observer aujourd'hui, mais où souvent Dieu dit des choses comme « il a fait des dons aux hommes » ou bien des choses comme « par la puissance qui agit en vous hein, ». Je vous rappelle ce qu'on a dit tout à l'heure, il veut faire infiniment au-delà de nos espérances, mais comment ? Par la puissance qui agit en nous. Ce n'est pas juste lui qui va faire une espèce d'acte extraordinaire, c'est qu'il met en nous un potentiel, il met en nous des capacités, il met en nous des qualités, des dons, qui sont désignés à faire en sorte que nous puissions nous développer, que nous puissions réussir et que nous puissions amener des choses à l'existence. Donc Dieu lui-même a investi en nous. Et il a fait un investissement d'ailleurs énorme vis-à-vis de l'humanité en donnant son propre fils. Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc Dieu a investi dans ce monde, Dieu a investi dans l'humanité. Et dès la création de l'homme, Dieu a investi, puisque je vous rappelle que Dieu a formé l'homme à partir de la poussière, mais la vie même, c'est Dieu qui l'a insufflé en lui. C'est que Dieu a investi, Dieu a mis quelque chose de son souffle, de sa nature, pour que l'homme existe. Donc Dieu a investi. Et maintenant, si l'on veut récolter, donc ça c'est un principe aussi, si l'on veut récolter, il faut d'abord semer. C'est extrêmement évident, mais ça a besoin d'être dit. Donc si l'on veut récolter, il faut d'abord semer. Également l'exprimer différemment en disant que si l'on veut atteindre un objectif ou si l'on veut réaliser quelque chose, il faut d'abord investir. Si l'on veut atteindre un objectif ou réaliser quelque chose, il faut d'abord investir. Si l'on veut récolter, il faut d'abord semer. Si l'on veut atteindre un objectif ou réaliser quelque chose, il faut d'abord investir. Et un autre principe qui est intimement lié, c'est que la semence produit la récolte qui lui correspond. La semence produit la récolte qui lui correspond. Autrement dit, vous obtenez ce que vous cultivez. Pour être très terre à terre, si je plante des carottes, je n'ai pas récolté des ignames, ou l'inverse. Donc la semence produit la récolte qui lui correspond, ou bien vous obtenez ce que vous cultivez. Donc, je vous renvoie immédiatement à Galates 6, verset 7, où il est dit « Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi ». Et permettez-moi d'attirer votre attention et de vous dire que c'est vrai pour les bonnes choses. Quand vous faites de bonnes choses, d'ailleurs la Bible dira aussi ce que vous voulez qu'on fasse pour vous, faites-le d'abord pour les autres. Mais quand on fait de bonnes choses, on va récolter de bonnes choses. Mais c'est vrai aussi que nos mauvais comportements ou nos mauvaises paroles ou nos mauvaises attitudes vont aussi provoquer ou attirer vers nous des mauvais comportements de la part d'autres personnes, des mauvaises attitudes de la part d'autres personnes. Et je peux vous assurer et vous garantir, j'ai pas envie de vous dire de tester parce que ça serait quand même dommage, mais que quand vous êtes dans une relation avec quelqu'un ou dans une conversation, si vous commencez à vous énerver, à monter le ton, la personne en face va aussi s'énerver et monter le ton. Par contre, si quelqu'un vient vers vous en étant énervé, en étant dans tous ses états et commence à vous monter dessus, entre guillemets, à s'énerver sur vous, voire même à vous insulter, vous qui avez compris ces principes en disant « Attention, ce que je sème, je le récolte », eh bien vous dites « Ok, la bonne réponse à cette situation, c'est d'amener une réponse calme, posée, claire, nette, précise, mais posée. » Et vous allez vous rendre compte, et je vous assure que c'est vrai aussi, que la personne en face va se calmer. Elle va forcément se calmer. Peut-être pas tout de suite, mais je peux vous assurer que si vous donnez une réponse calme, si vous êtes posé, si vous êtes accueillant, même si la personne vous agresse, au bout d'un moment, si c'est pas après la première phrase, c'est après la deuxième ou la troisième, la personne aussi va se calmer et vous allez revenir à un niveau de discussion normal et possible. Je vous assure que ça fonctionne. Et moi, personnellement, dans mon activité de manager, je l'expérimente régulièrement. Ça fonctionne très bien. Il y a une puissance dans la douceur, dans le calme. Je ne dis pas qu'il faut être faible, ce n'est pas une faiblesse. Au contraire, c'est une force de savoir rester calme dans toute situation et d'amener la personne de son état d'emportement ou d'énervement à un état maintenant de calme. On va pouvoir discuter et régler la situation. Donc la semence produit la récolte qui lui correspond. Proverbe 22, verset 8, il est écrit « Qui sème l'iniquité récolte aussi l'iniquité ». Ça appuie exactement ce que je viens de dire. C'est que si vous semez des choses, donc l'iniquité, ce sont des choses aussi qui sont injustes, ou bien souvent on range ça sous le péché. En fait, iniquité, ça appuie plus l'aspect de quelque chose qui ne soit pas juste. C'est-à-dire que vous aussi, si dans votre comportement, vous n'êtes pas juste, eh bien en face, vous risquez, vous vous exposez aussi à des injustices. Et très souvent, les gens crient à l'injustice en disant « Ouais, on m'a trompé, machin. » Mais toi-même, est-ce que tu n'as pas trompé quelqu'un ? Je ne dis pas que c'est toujours le cas. Mais très souvent, nous attendons un résultat différent de ce que nous semons. Et là, il y a un problème de logique. Il y a un grand problème de logique. Et Galates 6, verset 8 également, dira que celui qui sème selon la chair récoltera aussi des choses de la chair, mais celui qui sème selon l'esprit récoltera aussi des choses de l'esprit. Donc la semence produit la récolte qui lui correspond, ou bien vous obtenez ce que vous cultivez. Alors comment on cultive quelque chose ? Eh bien en le semant. Je vous ai montré tout à l'heure plusieurs types de semences, plusieurs manières de semer. Ça passe aussi par nos pensées, par notre façon de réfléchir, par notre mentalité. Ce que vous cultivez, ce qui est l'objet de vos pensées va aussi influencer vos actions. Et ça c'est extrêmement important à comprendre aussi. Donc ce que vous cultivez déjà dans vos pensées, quel est l'objet de vos pensées ? Qu'est-ce que vous méditez ? Qu'est-ce que vous réfléchissez ? Comment vous raisonnez ? Ça va influencer vos actions. Et maintenant, vos actions vont appeler aussi des choses qui y correspondent à la face. Un autre principe, toujours au sujet de la semence, ou bien de la cause à effet, ou bien principe de développement, c'est que récolte est proportionnelle à semence. On pourrait dire également que la réalisation de quelque chose est proportionnelle à l'investissement. Quand je parle d'investissement, je ne parle pas seulement de finances, de matériel, je parle de l'investissement qu'on y met, l'énergie qu'on peut y mettre, la manière dont on peut aborder la chose. Donc le résultat ou la réussite de quelque chose est proportionnel à notre investissement dans cette chose. La réussite ou la réalisation de quelque chose est proportionnelle à notre investissement. Et à ce sujet, la Bible déclare dans 2 Corinthiens 9, verset 7, que celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème avec abondance moissonnera avec abondance. C'est très logique, encore une fois, hein, ce n'est pas des choses extraordinaires, mais il y a une puissance dans ces vérités. Je vais bientôt m'arrêter parce que le temps file, mais permettez-moi encore trois principes. Ça va, vous pouvez encore supporter? Je suis très pratique aujourd'hui, hein, ce n'est pas de la prédication classique. D'ailleurs, je pense que la plupart des prédications... Non, je ne vais pas faire le... Je ne vais pas me lancer là-dedans. Mais si vous regardez un peu comment Jésus fonctionnait, Jésus n'était pas un prêcheur. Jésus était absolument très pratique, Jésus était concret et Jésus donnait des instructions. Une instruction, c'est quelque chose qui vous édifie, c'est-à-dire qui vous construit, qui vous bâtit et qui produit quelque chose dans votre vie. Je ne dis pas que la prédication n'a pas ce pouvoir, mais qu'un grand nombre de personnes font, c'est parler, parler, parler. Vous sortez de là, vous avez entendu quelque chose de bien, mais qu'est-ce que ça a produit? Très souvent, rien du tout ou très peu. Ce dont on a besoin, c'est d'instructions. C'est de choses pratiques, de choses concrètes qui changent nos vies. Parce que c'est le message de Christ. Le message de Christ, c'est que vous n'avez pas besoin de vivre médiocrement, vous n'avez pas besoin de vivre et d'attendre la mort comme des bêtes, excusez-moi l'expression, mais vous pouvez vivre une vie de qualité, une vie de premier choix. Et non seulement vous pouvez le faire, mais je vais vous montrer comment faire. Un autre principe, c'est que nous avons besoin de semer avec la bonne motivation, avec le bon état d'esprit. Semer avec la bonne motivation ou le bon état d'esprit. On pourrait également dire nourrissez votre bonne motivation ou un bon état d'esprit, si le mot semer vous perturbe un peu. Donc un des principes de développement, c'est aussi de nourrir une bonne motivation, un bon état d'esprit. 2 Corinthiens 9, toujours, au verset 7, il est question là de donner des choses pratiques, peut-être donner des biens ou autres, mais ça s'applique aussi à d'autres formes de semences que nous pouvons faire. Il est dit là que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et on peut en tirer là aussi un principe, même pour notre vie, c'est-à-dire que ce que nous faisons, ne le faisons pas avec tristesse ou comme avec contrainte, mais ce que nous faisons, ce que nous pratiquons, ce que nous disons, nos actions, qu'elles soient animées en disant « mais moi j'agis comme j'ai résolu dans mon cœur ». C'est-à-dire que mes actions et mes paroles vont dépendre d'une résolution. C'est-à-dire que j'ai pris une décision, j'ai résolu de faire quelque chose, je le fais. Je ne le fais pas avec tristesse, je ne le fais pas comme étant obligé, je ne le fais pas parce qu'il faut le faire, j'ai résolu quelque chose. Et du coup, ce que je dis, ce que je fais, je vais le faire avec joie et sans contrainte. Je peux vous dire que ça change la vie de quelqu'un. Si jour après jour, vous vous levez pour faire des choses que vous vivez comme une contrainte, franchement, la vie est vraiment trop limitée pour ça. C'est trop dommage de vivre comme ça pendant toute sa vie. C'est vrai qu'il y a un cadre social, il y a des choses qui existent. On peut pas non plus dire que chacun vit comme il veut. Mais si nous commençons à prendre des résolutions, à agir en fonction de nos résolutions, parler en fonction de nos résolutions, le faire sans contrainte mais avec joie, je peux vous dire que ça change notre façon de percevoir notre vie et tout ce que nous faisons au quotidien. Parce que nous voyons quelque chose de plus grand derrière les actes que nous posons. C'est pas juste je suis obligé de me lever, je suis obligé d'aller travailler, c'est mettre dans mon travail, trouver quelque chose qui me donne l'énergie et la résolution de le vivre avec joie, sans contrainte et sans tristesse. Quand vous croyez en ce que vous le faites avec beaucoup plus de plaisir que quand vous faites quelque chose comme une obligation. Quand vous croyez en l'effet de ce que vous faites, ça vous évite aussi le découragement ou le fait de baisser les bras. Quand vous faites quelque chose parce qu'on vous a dit qu'il faut faire comme ça, dès qu'il y a une difficulté, vous allez plus facilement vous décourager. Que si vous faites quelque chose parce que vous avez pris une résolution, quand il y a une difficulté, vous allez trouver aussi l'énergie de surmonter la difficulté. Parce que c'est pas juste « je suis obligé de le faire », c'est « je veux le faire, je suis résolu et je vais le faire ». Ok, et un dernier principe, c'est qu'une semence doit mourir avant de porter du fruit. C'est peut-être pas le plus agréable, mais il est vital aussi. Avant de porter du fruit, une semence doit mourir. Évangile de Jean, chapitre 12, verset 24. Il est écrit « Si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. » D'ailleurs, on peut prendre cette image même dans le fait de semer quelque chose en terre. Hein. C'est comme si on l'enterrait. Je veux dire, on creuse un trou, on met la semence, on referme. Pour un temps, c'est plus là. C'est comme si c'était mort. On l'a abandonné. On l'a laissé là. L'investissement, c'est la même chose. On prend quelque chose qu'on avait, soit un capital, soit un bien, soit quelque chose. Et pour un temps, c'est comme si c'était une forme de mort, parce qu'on s'en sépare. D'ailleurs, le terme mort dans la Bible veut davantage dire séparation que fin. Nous, dans notre pensée, quand on dit la mort, on dit c'est la fin. Dans la Bible, quand on dit la mort, c'est la séparation. C'est pas la même chose. Donc, il faut que le grain meure. C'est qu'il faut un moment qu'il y ait une séparation. Je me détache de quelque chose à un moment donné, mais en sachant que un moment, plus tard, ça va produire quelque chose et il y aura un fruit multiplié. Donc, le grain doit mourir. C'est qu'il faut qu'il y ait une séparation. Et là, c'est dit au sujet de Christ, que Christ a quitté son ciel de gloire, s'est séparé pour un temps de son Père au ciel pour venir sur la terre. Il a connu la séparation d'avec Dieu un jour à la croix quand il dit « Mais mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Mais grâce à cette mort, cette séparation avec Dieu qu'il a consenti volontairement, eh bien aujourd'hui nous pouvons bénéficier d'un héritage. Nous pouvons bénéficier d'une bénédiction, d'une grâce, d'une puissance qui nous est rendue disponible à cause de ce qu'il a accompli par notre foi. Donc une semence doit d'abord mourir pour porter du fruit. Donc il y a un besoin aussi de séparation de quelque chose, en sachant qu'en vue, on a la multiplication. Donc la semence va mourir d'une certaine façon, mais aussi pour renaître. D'accord ? Quand on plante une graine, évidemment, on l'enterre, entre guillemets, on la plante, on la cache, mais on sait qu'à un moment donné, elle est destinée à renaître. Quelque chose est censé en sortir. Et pour être concret, même dans un investissement, peut-être que je me sépare soit d'un montant d'argent, ou soit d'un bien, ou soit de quelque chose. Pour un temps, je m'en sépare, mais à un moment donné, ça va être appelé à renaître. C'est-à-dire que ça va ressurgir, mais ça va ressortir plus fort, plus puissant, plus important que ce que j'ai laissé au départ. Il y a ce principe important qu'on peut aussi appeler la mort à soi-même. C'est-à-dire qu'à un moment donné, nous devons être prêts à renoncer à certaines choses, à certains peut-être de nos projets, à certains de nos acquis, en ayant en vue que si je renonce à ça aujourd'hui, mais je sais que demain, ce renoncement, en fait, c'est une semence, il va porter un fruit supérieur à ce que j'aurais eu en le gardant. Si un planteur ou un agriculteur garde toutes ses graines, d'accord, il aura une réserve de graines, il pourra faire de la farine pendant un certain temps. Mais à un moment donné, la réserve va aussi se terminer. Mais s'il est intelligent, il va garder une partie de son grain pour faire de la farine, mais il va remettre une partie de ce grain en terre pour en produire de nouveau. Et ensuite, ainsi de suite, pour qu'il y ait toujours une multiplication et une pérennité. Et de la même manière, nous avons besoin aussi de savoir ne pas nous attacher tellement à ce que nous avons, comme en le gardant jalousement, parce qu'un jour, ça va se terminer. Mais si nous sommes prêts et capables de certaine manière mourir à ces choses et de les semer ou de les investir, eh bien demain nous nous garantissons un capital supérieur. Il y a un principe là-dedans, c'est-à-dire qu'il faut être prêt à savoir réinvestir et puis ensuite de nouveau garder une partie, le capitaliser et ensuite réinvestir une partie, capitaliser une partie, réinvestir une partie. C'est ce qui fait de la multiplication, c'est comme ça que les gens deviennent extrêmement riches. Parce qu'ils savent à quelle proportion garder, faire des réserves et des sécurités, mais ils savent aussi combien il est important et à quelle proportion il faut réinvestir pour engendrer de nouvelles ressources et produire la vie. Et ça, vous pouvez l'appliquer à votre vie chrétienne, votre vie spirituelle, même à l'évangélisation si vous voulez, mais vous pouvez aussi l'appliquer à votre vie pratique et quotidienne. C'est mon message, Dieu est extrêmement pratique. C'est bien de s'enrichir dans les vérités spirituelles, c'est bien d'enseigner sur la prière, sur la louange, sur ces choses-là, mais c'est indispensable aussi et c'est important aussi d'enseigner ces choses très pratiques et concrètes, parce que c'est ça qui va faire la différence. Et c'est ce qui fait de nous qu'on ne sera pas juste des espèces de gens comme ça qui caressent de beaux espoirs parce qu'ils ont la foi ou qu'ils sont croyants, mais qui ne voient jamais rien se produire. Nous sommes appelés, c'est vrai, à croire, à caresser de beaux espoirs, mais aussi à nous mettre en action, à comprendre et à appliquer des principes qui nous font aussi expérimenter des choses et réussir. Et qui font que demain, nous sommes crédibles. Parce que les gens vont dire, mais c'est vrai, lui, c'est pas juste une espèce d'illuminé. Parce que, excusez-moi, mais souvent, quand on dit qu'on croit à la Bible, ou qu'on va dans un endroit, ou qu'on dit qu'on va à l'église, ou qu'on dit qu'on va prier, c'est vrai qu'on prie, et tout ça reste valable. Ou quand on dit qu'on lit la Bible et qu'on croit à la Bible, ou qu'on croit à Dieu, les gens disent « mais lui, il n'est pas bien ». Parce que la plupart des gens qui disent croire à la Bible aujourd'hui, il n'y a pas de fruit derrière. Alors que si nous croyons la Bible normalement et que nous l'appliquons avec des choses très pratiques comme celles que j'ai pu aborder aujourd'hui, que j'espère vous êtes d'accord avec moi que c'est tiré de la parole, hein. Mais quand nous commençons à le pratiquer, on va voir des choses se produire dans notre vie, on va avoir un style de vie supérieur, et je peux vous dire que ça va nous donner aussi de la crédibilité. Et surtout de la crédibilité au nom de Jésus, parce que dans ce monde, le nom de Christ est beaucoup bafoué, le nom de Christ est beaucoup amoindri, diminué, parce que certains qui se réclament de Christ ne reflètent pas le caractère et la vie de Christ. Et il est temps que ça s'arrête. Il est temps que ça s'arrête et que se lèvent des hommes et des femmes qui osent relever le défi de prendre la parole, de se lever, d'accomplir des choses dans ce monde, même qui ne sont pas forcément spirituelles, et de montrer aux gens, ben voilà, moi je marche avec Dieu, je suis une personne équilibrée, je suis quelqu'un qui réussit, comment je fais ? J'applique tout simplement ce que Jésus a dit. Et c'est ça qui va faire la différence et c'est ce dont le monde a besoin. Donc pour conclure, je reviens à ce leitmotiv, cherchez d'abord le royaume de Dieu, cherchez premièrement son royaume et toutes choses vont se redonner par-dessus. Vous voyez, même quand vous passez du temps à lire la Bible, à chercher qu'est-ce que Christ désire, qu'est-ce que Christ enseigne, vous cherchez le royaume, mais en fait, en cherchant le royaume, vous trouvez des principes pour vous développer vous-même, pour développer votre vie, développer vos relations, développer vos activités. Et c'est absolument, absolument indispensable de mettre cette dynamique en route. Et c'est ça le vrai message de Christ, c'est ça le vrai message de l'Évangile. C'est un message transformateur, un message qui vous fait grandir, qui vous fait avancer. Et nous avons besoin de vraiment grandir dans ces choses encore et de voir comment notre vie va être transformée par ces choses-là. Donc, on a parlé de semences, de différents styles de semences, de l'attitude dans laquelle semer. On a parlé de plusieurs principes là. Et vraiment, nous-mêmes, nous sommes à considérer comme des semeurs en fait, puisque ce que nous faisons, c'est une forme de semence. Donc maintenant, à chacun de se poser la question, mais qu'est-ce que je sème en réalité ? Qu'est-ce que j'envoie entre guillemets comme signal dans mon environnement autour de moi et qu'est-ce que j'attends de récolter? Et à un moment donné, mais il va falloir aussi aligner ce que j'envoie comme signal sur ce que j'attends comme réponse, si on peut dire. Il va falloir aligner mes semences sur ce que j'aimerais récolter. Il va falloir aligner mon état d'esprit sur ces choses-là, sur mes objectifs. Et également, en tant que chrétien, Jésus dira, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Donc nous sommes envoyés, nous sommes comme une semence de Dieu dans ce monde. Donc Dieu a semé quelque chose, nous avons la responsabilité de nous développer, de grandir parce qu'il nous a semé. Il s'attend à nous, il a donné un potentiel que nous avons besoin d'activer. Et de la même manière, nous aussi, maintenant que nous comprenons, que nous fonctionnons, que nous développons, nous sommes appelés à transmettre ces choses, à les communiquer, à amener des perles de vie, si on peut dire, des perles de développement aussi aux gens autour de nous pour qu'à leur tour ils soient touchés, qu'ils puissent se développer, qu'ils puissent aller mieux et que nous voyons le vrai message de Christ, en fait, qui est censé être une bonne nouvelle, se répandre aussi à travers des choses, mais à travers des principes, à travers des attitudes, à travers des comportements et à travers des clés qui nous permettent de réussir. Okay ? Donc la parole de Christ, son message, ce n'est pas une religion, mais ce sont des principes de vie et des principes de puissance que nous avons besoin de découvrir. Donc, fort de ces principes que nous avons observés, fort de tout ce que nous avons déjà pu voir jusqu'à aujourd'hui, nous pouvons maintenant aussi nous porter de l'avant et aller vers les desseins de Dieu pour notre vie et plus généralement aussi la réalisation de ses buts pour la terre. Sachez que vous n'êtes pas sur la terre par hasard, vous n'êtes pas là pour subir, vous êtes là pour influencer, mais votre influence, vous l'exercez quotidiennement, par vos paroles, par vos actions, par vos semences. Il faut apprendre à prendre ses responsabilités, à assumer. Beaucoup de gens n'assument pas. Beaucoup de gens disent « Ouais, mais moi, rien ne va dans ma vie. » Ben oui, mais nous sommes responsables d'une certaine manière. Je ne dis pas que tous les malheurs, c'est de notre faute, mais je dis notre manière d'aborder le malheur ou la difficulté va déterminer son issue. Si une difficulté se présente et qu'on l'aborde avec un état d'esprit défaitiste en disant « Oh, je n'y arriverai pas » ou « Je ne suis pas assez gros pour ça » ou « C'est toujours sur moi que ça tombe », eh bien, on donne accès à ces choses-là de venir nous détruire. Par contre, si une difficulté ou un malheur se présente à nous, qu'on l'aborde avec un état d'esprit de dire « mais je vais pouvoir le surmonter, laisse-moi chercher, laisse-moi comprendre les mécanismes qui vont faire en sorte que je puisse le passer et m'en sortir », je peux vous assurer que vous allez en sortir vainqueur avec un minimum de bobos. C'est comme ça, c'est ça qui fait la différence entre les gens qui réussissent et qui ne réussissent pas. C'est ça qui fait la différence entre un dépressif et quelqu'un qui n'est pas dépressif. Et si aujourd'hui dans ce monde, et d'ailleurs en France on est les champions là-dessus, les gens mangent des kilos et des kilos d'antidépresseurs, c'est parce qu'il leur manque les clés pour faire face au problème. Quand un problème vient, ils se laissent dépasser et ils tombent dans la dépression. Mais il est temps qu'ils entendent et que quelqu'un leur dise « mais tu peux agir dans ta vie, tu peux changer les circonstances, tu peux exercer ton influence par ta manière de réfléchir, ta manière de parler, ta manière d'agir, qui sont des semences qui vont changer la nature des choses en face de toi. » Donc nous avons un potentiel extraordinaire. Et cette Bible que nous avons tous là, ce n'est pas juste un petit truc de religion, quoi. Et vous l'avez à votre disposition. Et même la Bible, c'est un potentiel. C'est-à-dire qu'il y a une puissance dedans, mais qui ne devient réelle qu'à partir du moment où vous l'activez. Comment vous l'activez ? Vous la lisez, Vous demandez au Saint-Esprit de vous aider à la comprendre. Vous commencez à la proclamer avec foi. Et je peux vous dire qu'il y a des choses puissantes qui vont se déclencher. Je vous encourage vraiment à chercher aussi à vous développer. N'ayez pas de complexe à vous développer et à réussir. Parce que c'est la pensée de Dieu pour vous.
Nous espérons que vous avez été bénis par ce message. Chaque année, le ministère Enseigne-moi a un impact considérable dans la vie de dizaines de milliers de personnes. Avec votre aide, nous continuerons à diffuser la parole de Dieu partout dans le monde. Dès aujourd'hui, devenez vous aussi partenaire du ministère Enseigne-moi en vous connectant sur le site www.association-enseignemoi.org. www.association-enseignemoi.org.